ici 3 heures à Paris et Kinshasa 2 heures temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Une posture de chef de guerre, un discours solennel et offensif. Félix Tshisekedi s'est montré ferme lors de son discours à la Nation prononcé ce mercredi soir. Le président congolais a déploré une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'est du pays, alors que Goma est presque entièrement contrôlée par le M23 soutenu par le Rwanda. Il affirme qu'une riposte vigoureuse est en cours et que la RDC ne pliera pas. En Haïti, ce seront les premières élections en 9 ans. Leslie Voltaire, le président du Conseil de transition, a annoncé que des élections générales se tiendront autour du 15 novembre prochain. Lui vient d'être nommé président de la transition en Syrie. Ahmed Al-Shara, à la manœuvre en décembre dernier pour renverser Bachar al-Assad, a été nommé ce mercredi par les nouvelles autorités. Et puis en football, une victoire éclatante pour le Paris Saint-Germain, mais aussi pour Manchester City, qualifiés tous les deux pour les barrages de la Ligue des Champions. Il s'est érigé en rempart pour défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi s'adressait à la Nation ce mercredi soir à la télévision nationale alors que le M23 soutenu par le Rwanda contrôle une grande partie de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Le président congolais reconnaît que l'est du pays vit une aggravation sécuritaire sans précédent. Il a également dénoncé l'inaction de la communauté internationale. Résumé de cette prise de parole avec notre correspondant Pascal.
C'est un discours offensif prononcé sur un ton grave et solennel. Félix Tshisekedi est apparu déterminé dans une posture de chef de guerre. Lunettes bien vissées, chemise kaki boutonnée jusqu'au col, il a dénoncé une attaque contre la République et une offense à l'histoire et à la dignité du peuple congolais. Face à l'entrée du M23 appuyé par l'armée rwandaise à Goma, il assure que la riposte est en cours, vigoureuse et coordonnée, dit-il. Il a donné des instructions au nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, intensifier les opérations militaires et rétablir l'autorité de l'État. Félix Tshisekedi s'adresse aussi aux habitants de Goma. Il dit ressentir leur douleur, promet des mesures pour protéger la population et appelle à l'unité nationale. Mais il interpelle aussi la communauté internationale, accuse le Rwanda de violer les engagements régionaux et fustige ce qu'il qualifie de passivité qui frôle la complicité. Enfin, il annonce des mesures économiques, réduction du train de vie des institutions pour financer l'effort de guerre et lancement d'un appel à l'enrôlement dans l'armée. La RDC ne pliera pas, la RDC ne reculera pas, affirme-t-il, avant de conclure par une promesse solennelle. « Je ne vous abandonnerai jamais, j'en fais ici le serment ». Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Et ce mercredi matin, Félix Tshisekedi s'était d'abord rendu à Luanda pour une concertation avec le président angolais, médiateur dans ce conflit, João Lourenço, qui a officiellement condamné cette offensive du M23, exigé le retrait immédiat des combattants rebelles et des forces rwandaises de Goma. C'était la première fois que le médiateur angolais se prononçait ainsi publiquement contre le Rwanda. Cela fait 9 ans que les Haïtiens n'ont pas pu s'exprimer dans les urnes, une période de disette qui pourrait toutefois prendre fin à l'automne. Des élections générales pourraient en effet être organisées autour du 15 novembre. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi Leslie Voltaire, le président du Conseil de transition haïtien. Une éclaircie démocratique potentielle dans un pays assombri par la violence des gangs qui contrôlent notamment presque entièrement la capitale, Port-au-Prince. La transition qui se structure aussi en Syrie, c'est Ahmad Al-Shara qui a été nommé président ce mercredi et qui sera chargé d'organiser cette transition. De fait, c'est déjà lui qui dirigeait le pays depuis la fin du régime Assad début décembre dernier. Les groupes armés qui ont participé à chasser l'ex-dictateur ont d'ailleurs été dissous également ce mercredi afin que leurs composantes puissent être intégrées aux institutions de l'État. L'un des points de l'accord de trêve à Gaza continue d'être appliqué à la lettre. Ce jeudi, Israël va libérer 110 prisonniers palestiniens en échange de 8 otages du Hamas. Dans le détail, il s'agira de 3 Israéliens et de 5 Thaïlandais qui sont tous vivants. Ce cessez-le-feu, il doit durer au total 6 semaines et la population de l'enclave palestinienne espère que cela dure encore plus longtemps dans l'optique de reconstruire ce qui est devenu en 15 mois de guerre un champ de ruines. Plusieurs défis se dressent déjà. D'abord, le financement d'un chantier chiffré entre 100 et 200 milliards d'euros, mais aussi la disponibilité du matériel nécessaire pour remettre debout des immeubles, des commerces, retracer des routes. C'est ce que explique Xavier Guignard, il est chercheur associé à Noria Research.
Tout le matériel de bâtiments et travaux publics, de génie, qui était disponible à Gaza, a été aussi la cible des attaques israéliennes durant les 14 derniers mois. Et donc, les camions de déblaiement, les pelleteuses, Les tractopelles sont pour la plupart détruits ou endommagés. Et donc, il va falloir les faire venir par voie terrestre. Et donc, ça nécessite aussi de pouvoir reconstruire et déblayer ces voies-là. Donc, c'est un travail qui est extrêmement long et il n'y a pas les infrastructures aujourd'hui nécessaires pour entamer tout de suite le chantier. Mais la reconstruction ne peut pas être limitée à celle du bâti parce que les infrastructures ayant été complètement dévastées, il faut aussi reconstruire une centrale électrique, des usines de désalinisation pour avoir de l'eau à disposition. Et donc, tout ça doit être mené de front et en parallèle pour pouvoir avoir un habitat fonctionnel.
Xavier Guignard, interrogé par Pierre Olivier, les Palestiniens qui comptent évidemment donc se réétablir à long terme à Gaza, ce qui n'était pas du goût de Donald Trump. Le président américain avait en effet suggéré que les Gazaouis soient déplacés en Jordanie ou en Égypte, deux pays qui ont tout simplement rejeté l'idée ce mercredi. Le roi jordanien Abdallah II a répété qu'il soutenait toujours la solution à deux États. Abdel Fattah al-Sissi, le président égyptien, a lui qualifié cette idée du dirigeant américain d'injustice à laquelle nous ne prendrons pas part. Les États-Unis version Donald Trump, toute voile dehors pour briller sur le plan économique. Alors, pour rester dans la course face aux entreprises américaines, mais aussi chinoises, l'Union européenne a présenté ce mercredi sa feuille de route pour la compétitivité. La priorité, c'est désormais de soutenir les entreprises. Bruxelles souhaite donc pour cela activer plusieurs leviers en baissant le coût de l'énergie, en aidant l'industrie, en assouplissant les règles sur la concurrence ou encore en simplifiant les démarches administratives. Cette dernière mesure, eh bien le MEDEF, la première organisation patronale en France, l'a réclamée depuis longtemps. Écoutez à ce propos Fabrice Le Sachet, en charge des questions européennes.
L'Europe est en train de mourir d'un excès de réglementation qui coûte beaucoup d'argent aux entreprises, qui nous décroche du reste du monde, qui fait que les entreprises européennes se retirent de certains marchés parce qu'elles sont plus compétitives ou alors parce que la réglementation européenne est trop lourde et ne leur permet pas de développer leur business sur ces marchés. Et donc, cette simplification, elle est aussi gage normalement de coûts de production moindres et de rapidité d'exécution plus élevée à un moment donné où les coûts de production chinois, nous plombe et où la rapidité d'exécution américaine nous plombe. Donc maintenant, il faut que ça réussisse et il faut accélérer.
Est-ce que c'est une politique qui est raccord avec les objectifs climatiques que s'est fixé l'Union européenne ?
Oui, parce que les objectifs climatiques, ils se font pas avec de la paperasserie et des papiers. Donc voilà, il faut qu'on revienne aux sciences, à l'expérimentation, à la raison. Et on garde les objectifs de décarbonation, bien évidemment, mais ça doit générer du business et ça doit être de l'activité économique.
Fabrice Le Sachet, interrogé par Nicolas Feldman. Aux États-Unis, l'actualité économique, elle concerne cet épilogue potentiel autour d'un imbroglio budgétaire. Ce mercredi soir, la Maison-Blanche a finalement décidé qu'elle ne gèlera pas une partie de ses dépenses d'assistance. Cela inclut des subventions et allocations pour les personnes âgées ou les plus démunies. Rétropédalage donc, alors que la mesure avait pourtant été annoncée lundi. RFI 8h08 à Dhaka au Bangladesh, où les islamistes deviennent l'adversaire le plus coriace des footballeurs. Dans le nord du pays, un match amical régional a été annulé ce mercredi. C'est la deuxième fois que cela se produit en une semaine, Carlota Morteo.
À Jaipurat, le terrain de foot du lycée où devait avoir lieu la rencontre entre deux équipes féminines du district a été vandalisé, les tribunes en bois brisées par des centaines d'islamistes qui s'étaient rassemblés pour scander, je cite, « le football féminin est contraire à l'islam ». La veille, un autre match féminin a dû être annulé en dernière minute dans la ville voisine de Dinajpur après une manifestation similaire où des hommes armés de bâtons ont fait irruption sur le terrain et provoqué des affrontements à coups de briques avec le public. Depuis 2011, le football féminin s'est beaucoup développé au Bangladesh grâce notamment à la création par la Fédération de foot bangladaise d'un tournoi scolaire pour les filles qui a fait émerger des talents de jeunes joueuses en short maillot, aujourd'hui très suivies sur les réseaux sociaux. L'équipe nationale féminine a d'ailleurs gagné la Coupe d'Asie du Sud-Est l'an dernier et se classe bien mieux que l'équipe masculine au niveau international. Mais depuis 6 mois, avec l'instabilité politique et les difficultés du gouvernement intérimaire de Mohamed Younous à réformer le pays, les fondamentalistes religieux se manifestent de plus en plus dans l'espace public. Ils se sont aussi attaqués à des sanctuaires appartenant à la minorité soufie et à des communautés hindoues.
Carlota Morteo. Et puis en foot, toujours grosse bouffée d'oxygène pour le PSG et Manchester City, qualifié pour les barrages de Ligue des Champions. Le PSG a obtenu son ticket grâce à sa victoire 4-1 à Stuttgart. Manchester City grâce à son succès contre Bruges 3-1. RFI, 3h10 à Paris.